VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Au Tchad, boycott des travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution par les députés de l'opposition. Ils réclament un référendum. Au Nigeria, ouverture d'un sommet Afrique-États-Unis consacré à la sécurité, la lutte contre le terrorisme au centre des discussions. Londres accuse la Russie et la Syrie d'avoir refusé l'accès à la mission de l'OIAC à Douma. Le Kremlin rejette ces accusations. Un point de vue sur la stratégie occidentale.
C'est plutôt de théâtre politique au lieu de vraiment avoir une stratégie qui va marcher.
Dans les dossiers du jour également, le paludisme au centre d'une grande conférence à Dakar, au Sénégal.
Vous savez que le paludisme est lié directement au climat et aussi au climat métrique, qui impacte directement sur la résistance du paludisme.
Dans la Minute Éco, le FMI veut reprendre son programme de financement pour le Tchad et les derniers résultats de la NBA dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, plus de 250 magistrats accusés de corruption ou d'incompétence ont été révoqués ou démis par le président congolais Joseph Kabila. Une annonce faite à la télévision publique par le ministre de la Justice congolais qui a ajouté « On ne peut pas entrer dans la magistrature avec comme objectif de se faire de l'argent ». Au Tchad, les députés de l'opposition comptent boycotter les travaux liés à l'adoption par le Parlement d'une nouvelle constitution prévoyant un régime présidentiel intégral. Les précisions de Lionel Gaïma.
Tous les travaux liés à la nouvelle constitution seront boycottés jusqu'au 30 avril 2018, a fait savoir Ahmad Saleh Rakis, député de l'opposition et sixième vice-président de l'Assemblée nationale tchadienne. Monsieur Rakis et 32 autres députés sur un total de 170 réclament un référendum sur la question. Le mois dernier, l'adoption par le gouvernement d'un projet de loi constitutionnelle instaurant un régime présidentiel intégral au Tchad avait créé un mouvement de révolte chez les députés de l'opposition. Ces derniers estiment que la nouvelle constitution renforcerait les pouvoirs du président tchadien Idriss Déby Itno. Selon l'opposant Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, si quelques apparences restaient, maintenant c'est un pouvoir sans partage. Le président Idriss Déby Itno est âgé de 65 ans, dirige le Tchad depuis 1990 après 5 mandats. Si la loi est adoptée, le chef de l'État tchadien pourra se présenter de nouvelles élections présidentielles en 2021 et effectuer 2 mandats de 6 ans jusqu'en 2033. Le projet de loi sera examiné par un comité technique de l'Assemblée nationale avant d'être soumis au vote des parlementaires le 30 avril. Quant aux élections législatives, elles sont fixées à novembre prochain suite à plusieurs ajournements.
Au Nigeria, un policier tué et un ressortissant allemand enlevé dans l'état de Kano par des individus armés non identifiés. Un groupe armé de 5 hommes à bord d'un véhicule a tendu une embuscade à la voiture transportant le personnel d'une entreprise de construction. Par ailleurs, au moins 4 policiers ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays. Un conflit entre agriculteurs et nomades pour l'accès à la terre a fait des centaines de morts depuis janvier dans cette région. Et le Nigeria abrite également une conférence des militaires de plusieurs pays d'Afrique. La rencontre est co-organisée avec les États-Unis et veut renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Eric Manirakiza.
La haute hiérarchie militaire des pays d'Afrique dialogue sans détour sur la sécurité sur le continent. Les menaces djihadistes sont particulièrement évoquées. Il s'agit des Shebab à l'est, Boko Haram à l'ouest, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI au Mali et au Niger. Des représentants des armées angolaises, camerounaises, égyptiennes, kenyanes et rwandaises participent notamment à ce sommet des forces terrestres africaines. Le président Donald Trump a poursuivi la politique de son prédécesseur Barack Obama, qui avait renforcé la présence militaire américaine dans plusieurs pays d'Afrique. Peu avant son limogeage à mars dernier, l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait promis l'assistance militaire de Washington lors de sa tournée dans 5 pays d'Afrique.
D'ailleurs, le président nigérian Muhammadu Buhari est attendu le 30 avril aux États-Unis, où il sera reçu en audience par son homologue américain Donald Trump, avec qui il s'entretiendra sur des questions portant notamment sur la lutte contre le terrorisme et la croissance économique. En Mauritanie, les médecins généralistes et spécialistes confondus ont entamé une grève sur l'ensemble du territoire national. Cette grève, qui est suivie à plus de 90%, touche la plupart des hôpitaux et cliniques dans le pays. Elle est organisée par deux syndicats revendiquant l'amélioration de leur situation matérielle à travers notamment l'augmentation de leur salaire. Les corps de deux jeunes Africains morts ont été découverts à Ceuta, dans une zone proche de la clôture frontalière séparant le Maroc de l'enclave espagnole qu'ils étaient parvenus à franchir. Les autopsies réalisées par un médecin légiste doivent déterminer les causes de leur mort. Une enquête a été confiée à un juge d'instruction. L'Union européenne prête à renégocier ses accords de pêche avec le Maroc. Ses États membres ont donné le feu vert aujourd'hui pour lancer des négociations qui devraient tenir compte d'une récente décision de la justice européenne sur le Sahara occidental. Le protocole qui existe entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc expire le 14 juillet 2018. Le Zimbabwe participera cette semaine à un sommet du Commonwealth à Londres, marquant la volonté d'Harare de revenir sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe. Le secrétaire d'État auprès du ministère zimbabwéen des Affaires étrangères a déclaré que le nouveau président, Emmerson Mnangagwa, a dit qu'il ferait tout ce qui est nécessaire pour reprendre contact avec le monde. Le Zimbabwe n'a cependant pas encore formalisé son intention de rejoindre le Commonwealth.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques séjourne à Damas, en Syrie, pour enquêter sur la présumée utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Selon le Royaume-Uni, la Russie et la Syrie n'ont pas encore autorisé l'accès à Douma. Irénée Hermanombo.
Malgré les frappes occidentales en Syrie contre la volonté de Moscou, le Kremlin espère encore engager un dialogue avec Washington. La Russie rejette cependant les accusations de Londres selon lesquelles elle aurait entravé l'accès de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la ville syrienne de Douma, théâtre d'une récente attaque chimique présumée. Des diplomates russes et français sont en réunion d'urgence ce lundi au siège de l'OIAC à La Haye pour convenir d'un accord en vue de faciliter l'accès à l'organisation. Pour ce qui concerne la menace américaine de retirer ses troupes de la Syrie, le président français Emmanuel Macron dit avoir convaincu son homologue américain de les y maintenir. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a annoncé que la mission des forces américaines déployées en Syrie n'a pas changé. En revanche, Donald Trump veut qu'elle rentre aux États-Unis dès que possible.
Et ici aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a qualifié le président Donald Trump de moralement inapte à diriger les États-Unis dans une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision américaine ABC. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'interview diffusée par la chaîne de télévision ABC intervient avant la publication demain mardi des mémoires de James Comey, ancien directeur du FBI, un ouvrage de 300 pages intitulé « A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, Mensonges et Vérité » en français. Le livre présente M. Trump comme un boss mafieux, un être malhonnête et égocentrique. M. Comey qualifie le président de menteur, je cite, « qui salue tous ceux qui sont autour de lui ». Je ne crois pas qu'il soit médicalement inapte. Je crois qu'il est moralement inapte à être président, a martelé M. Comey. Il a estimé possible, mais pas certain, que les Russes détiennent des éléments compromettants susceptibles de faire chanter Donald Trump. Il a ajouté qu'il est possible que le président ait fait obstruction au travail de la justice lorsqu'il lui a demandé d'abandonner une enquête sur Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale. L'ancien directeur du FBI dit toutefois ne pas souhaiter une destitution du président. Donald Trump a limogé M. Comey en mai 2017, mettant en cause la manière dont le FBI a mené l'enquête sur l'usage illégal par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, d'un serveur privé pour ses emails. Le président américain fustige aussi l'enquête du FBI sur des soupçons de collusion entre son équipe de campagne et des responsables russes pendant la présidentielle de 2016.
Et toujours aux États-Unis, 7 détenus sont morts et 17 autres ont été blessés dans une mutinerie survenue dans une prison de haute sécurité de Caroline du Sud. La mutinerie a éclaté hier soir, ont précisé les services pénitentiaires sur Twitter, ajoutant qu'elles avaient été maîtrisées très tôt ce matin. L'incident a impliqué plusieurs prisonniers. Une enquête est en cours. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La BAD va débourser plus de 43 millions d'euros pour la construction du pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Il s'agit d'un financement partiel du projet car la BAD devra débloquer au total 66 millions d'euros pour l'ouvrage. Ce pont est long de 650 mètres pour environ 92 milliards de francs CFA. Le Cameroun doit réunir 58% du financement et le Tchad 42%. Le FMI veut reprendre son programme de financement pour le Tchad. L'accord conclu entre N'Djamena et un groupe de créanciers composé de la société Glencore et 4 autres banques a motivé la décision de l'institution de Bretton Woods. L'accord porte sur la restructuration $1 milliard de dettes de l'État tchadien envers ses entreprises. Le FMI va débloquer $51 millions qui s'ajoutent aux $48 millions débloqués l'année passée. La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Éthiopie ont convenu d'un financement de $57 millions pour la rénovation de l'Africa Hall. Le projet vise à moderniser les installations du site, préserver et restaurer les valeurs historiques et culturelles ancrées dans son architecture. Les travaux devraient être terminés d'ici à 2021. L'Africa Hall fait office de siège de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il a été construit entre 1959 et 1961 et inauguré par l'empereur Haïlé Sélassié Ier le 26 février 1961.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Visite d'inspection de la FIFA au Maroc.
Et oui, un groupe d'évaluation de la FIFA a commencé ce lundi sa première visite d'inspection au Maroc. Vous le savez, le pays est candidat à l'organisation du Mondial 2026 face à la candidature conjointe des États-Unis, du Mexique et du Canada. La délégation doit notamment inspecter dès mardi le grand stade de Marrakech, inauguré en 2011 en périphérie de cette ville très touristique et qui accueille des rencontres internationales. La mission de la FIFA se poursuivra ensuite à Agadir, à Tanger et à Casablanca, la FIFA qui doit publier ses résultats à l'issue de cette tournée d'évaluation de 3 jours. On rappelle qu'un groupe de travail de la FIFA a effectué la semaine dernière des visites similaires à Mexico, Atlanta et New York, puis Toronto. On rappelle enfin que les 207 fédérations membres de la FIFA désigneront l'organisateur du Mondial 2026. Ce sera le 13 juin à Moscou, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie.
Tour de cadrage retour de la Coupe CAF.
Les 4 premières rencontres à suivre dès mardi, le Beldouizdad qui accueille en Algérie la SEC Mimosa après la victoire des académiciens 1-0 à l'aller. L'AS Vita Club se déplace chez le voisin du Congo, la Mancha, avec un avantage d'un but acquis au match aller à Kinshasa. L'USM Alger qui devra remonter 1 but de retard après sa défaite au Nigeria devant Plateau United 2-1. Enfin, Al Masri d'Égypte qui devra battre le CF Mounana du Gabon après le match nul à l'aller, 1-1.
Et en Italie, l'Inter Milan espère se relancer, Nicolas.
L'Inter Milan qui marque le pas en Serie A se doit de l'emporter demain à San Siro en ouverture de la 33e journée face à Cagliari pour ne pas décrocher et s'éloigner du top 4, synonyme de qualification pour la phase de poule en Ligue des Champions, avant le choc de samedi entre la Juventus de Turin, le leader, et son dauphin Naples à 6 points, un match qui pourrait décider du titre.
Et pour finir, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
James Harden a affolé les compteurs avec Houston, vainqueur de Minnesota 104-101. Harden a fait honneur à son statut de meilleur marqueur de la saison régulière en inscrivant 44 points face aux Timberwolves. Dans l'autre duel de la conférence Ouest, Utah s'est incliné à Oklahoma City 108-116. À l'Est, Cleveland et LeBron James ont entamé les playoffs de la pire des manières en se faisant balayer devant leur public par Indiana 98-80. Dans l'autre duel à l'Est, Boston a dominé Milwaukee en prolongation 113-107.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Retour sur les frappes menées ce week-end par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien. Trois sites ont été visés avec pour annonce de détruire l'arsenal chimique syrien en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas. Des raids menés alors même que Washington affirmait ne pas vouloir intervenir en Syrie et prévoyait de se retirer du pays. Comment comprendre cette stratégie? Morgan Guerriec a joint Brett Bruen, président de l'agence Global Situation Room.
C'est une politique de mettre une ligne rouge en Syrie et voir si Bachar al-Assad, Vladimir Poutine vont prendre les risques de continuer d'utiliser les armes chimiques.
Mais en même temps, quand on affirme qu'on ne veut pas intervenir, pourquoi Bachar al-Assad ou Poutine arrêteraient?
En ce moment, la France, Grande-Bretagne et les États-Unis voudraient prendre une politique de ne pas se mettre dans le conflit en Syrie, sinon juste mettre en garde le gouvernement syrien, la Russie, qu'il faut respecter les normes internationales.
Cette stratégie de frapper dans le but de mettre un peu la pression sur Bachar al-Assad et Poutine, est-ce que ça a des chances de marcher?
À mon avis, non. Il manque vraiment une stratégie derrière ce plan. Bachar al-Assad, Vladimir Poutine savent survivre ces attaques. Il faut qu'il n'y ait pas vraiment des conséquences pour leurs intérêts personnels. Et pour l'instant, les sanctions qu'on a mises en place ne sont pas du tout suffisantes.
Et comment l'expliquer?
Parce qu'il faut montrer au peuple américain, français, britannique qu'on fait quelque chose. Mais c'est plutôt du théâtre politique au lieu de vraiment avoir une stratégie qui va marcher.
La Maison-Blanche se dit déterminée à écraser l'organisation État islamique et à créer les conditions qui empêcheront son retour. Mais en même temps, elle confirme son intention de retirer ses troupes de Syrie. Ici encore, comment compte-t-elle s'y prendre?
Nous n'avons pas appris les leçons de l'Irak. La décision du président Obama était très tôt de retirer nos soldats de l'Irak. Je crois que le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment une bonne volonté au niveau du peuple américain pour faire le nécessaire. Ne pas seulement frapper, ne pas seulement arrêter les attaques immédiates, sinon éradiquer la présence et aussi l'intérêt de certains extrémistes vers la participation dans un groupe comme l'État islamique.
C'était Brett Bruen, le président de l'agence Global Situation Room.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a levé la mesure interdisant les visas pour les ressortissants tchadiens devant se rendre aux États-Unis. Il avait mis le Tchad sur la liste dans son dernier décret migratoire en septembre 2017, après avoir constaté des lacunes dans la gestion des documents de voyage et de partage d'informations sur la lutte contre le terrorisme. Réaction des Tchadiens dans ce reportage d'André Komajingar, correspondant de VOA Afrique, N'Djamena.
Une décision qui a choqué en son temps nombre de Tchadiens vu l'engagement de leur pays dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La levée de cette sanction est entrée en vigueur vendredi dernier. Pour Ngarondé Djarma, infirmier à la retraite, la normalisation des relations diplomatiques entre le Tchad et les États-Unis coïncide malheureusement avec double triste anniversaire. L'assassinat du premier président tchadien François Thomas Mbaye dans un coup d'état militaire et la tentative de prise du pouvoir par les armes par un groupe rebelle dirigé par Mahamat Nour.
Effectivement, c'est une date maudite. Qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'ils se réconcilient avec eux? Ils nous ont fait du mal. Ceux américains, ce n'est ni Rome, ce n'est ni la Mecque. Pourquoi aller là-bas faire quoi? Moi, je trouve que ce n'est pas un événement.
Mahamat Digadimbaye, qui coordonne une coalition Touche pas à mes acquis, une société civile proche du pouvoir, a souligné que la levée de cette mesure est une victoire sur une décision prise de manière active. S'agissant du drapeau américain qui a été brûlé lors de la manifestation populaire qu'il a initiée pour protester contre la décision de Trump, Mahamat Digadimbaye tente de se justifier.
J'ose vous dire, pour apporter un démenti à à cette information parce que officiellement nous n'avons pas du tout brûlé les drapeaux des États-Unis. C'était une dérive, peut-être quelque part, les gens auraient dû faire cela. Mais cette manifestation a constitué un déclic important et fondamental dans les négociations.
L'ambassadeur de la paix auprès de la francophonie, Abdrahmane Diasnabaï, se réjouit de la levée de cette sanction.
Quand je vais à l'extérieur, tout le monde s'étonne. Comment le Tchad qui a beaucoup fait aujourd'hui se trouve sur une liste noire, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi-même, quelquefois, j'étais en difficulté vis-à-vis des collègues étrangers. Aujourd'hui, on nous a lavé de tout soupçon. Mais j'espère aussi que le gouvernement tchadien tiendra compte de ce qui a été dit et que nos documents de sécurité soient suffisamment protégés.
Pour le président du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, Mahamat Ahmad Lazina, cette décision ne changera en rien le quotidien des Tchadiens.
Nous saluons cette décision, mais que les États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme, ne sacrifient pas les Tchadiens. Tout ce qui se passe au Tchad, la communauté internationale est au courant, mais elle ne dit rien. Mais il oublie que ceux qui sont en train de mourir, ce sont les enfants du Tchad.
Selon l'opinion nationale, la levée de cette mesure va accélérer le dossier du directeur de la compagnie Air Interwan, Mathias Sarsi, en détention depuis le 30 septembre 2017 pour financement du terrorisme, blanchiment d'argent, faux et usage de faux, conséquence logique de cette décision. Car déjà en date du 9 avril dernier, la justice a annulé la décision suspendant les activités de transport aérien de la dite compagnie pour vice de procédure. André Kodmadingar Ndiamena, VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, les formations politiques de l'opposition sont en perte de vitesse quand on tient compte des derniers résultats qu'elles ont obtenus au cours des scrutins, selon notre correspondant sur place. Par exemple, le Social Democratic Front, le principal parti d'opposition, n'a eu que 7 sièges de sénateurs sur les 70 qui étaient en jeu lors des élections sénatoriales du mois dernier. De Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Il y a des raisons évidentes qui justifient le déclin progressif de l'opposition camerounaise. Explication avec professeur Pascal Messanga Nyamding, politologue, enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.
L'opposition s'auto-neutralise. Pour preuve, vous pouvez voir les positions d'un Cabral Libi qui est candidat à l'élection présidentielle et l'acharnement qu'il a vis-à-vis de M. Kamto qui lui aussi est candidat à l'élection présidentielle. Et puis à côté, on a une opposition complètement éclatée qui polarise la méfiance de plus en plus du peuple sur elle.
En 2013, 14 sénateurs élus étaient issus du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Ils ne sont plus que 7 à l'issue des dernières élections sénatoriales. Denis Kouemelo, secrétaire général adjoint du SDF, chargé de la communication.
Si les partis de l'opposition ne font que perdre les élections, c'est parce que la démocratie camerounaise est en perte de vitesse. Vous savez que M. Biya est le seul à prendre toutes les décisions majeures en rapport avec les élections. Les membres de l'ECAM, Élections Cameroun, l'organe chargé de l'organisation matérielle des élections, sont désignés par M. Biya. Il en est de même du ministre de l'administration territoriale, qui est très loyal au président de la République. Les personnes qui incarnent une nouvelle vision pour le Cameroun sont dépossédées des moyens financiers et des ressources humaines par l'appareil étatique au service du parti de M. Biya.
La faible représentation des partis de l'opposition s'est aussi accentuée à l'Assemblée nationale et au sein des exécutifs communaux. Selon Maïdadi Sedouyaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, deux facteurs jouent de plus en plus en défaveur de l'opposition camerounaise.
Les partis ne sont pas tellement appuyés par le peuple. Voilà pourquoi la démocratie n'avance pas dans notre pays. L'alliance entre partis reste nécessaire pour gagner une élection, notamment majeure comme la présidentielle. Le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour que cette alliance ne se fasse pas.
Reste que l'opposition apparaît de plus en plus désunie à quelques mois des élections municipales, législatives et présidentielles de 2018. Marie-Jeanne Abega, ex-militante du mouvement Alternance 2018, ne croit plus à une candidature unique de l'opposition.
Il y a certains avantages que confère la Constitution lorsque un parti présente son candidat à la présidentielle. On a constaté que beaucoup de gens ne veulent pas que ces avantages soient noyés dans le fait qu'il soit rentré dans une coalition.
En 1992, l'opposition s'était retrouvée en pole position à l'Assemblée nationale avec 92 députés sur les 180. Depuis lors, elle s'est affaiblie considérablement au grand bonheur du RDPC, le parti au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et on en parlait en titre, une conférence panafricaine sur le paludisme s'est ouverte hier au Sénégal. Plus de 3000 experts sont attendus à cette rencontre régionale, dont l'objectif est avant tout de faire le point sur la lutte contre cette maladie, responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde. Plus de détails sur les enjeux de cette conférence avec le directeur du programme national de lutte contre le paludisme du Sénégal, Doudou Sen, joint au téléphone par Irénée Hermanongbo.
90% de la charge de la morbidité et de la mortalité du paludisme sont en Afrique subsaharienne. Et donc, vous comprendrez mieux tout l'intérêt que porte cette conférence dans ce pays, qui regroupe pratiquement tous les scientifiques du monde entier qui travaillent dans le domaine du paludisme et qui, pendant ces 5 jours, vont échanger sur les nouvelles découvertes et sur les nouveaux progrès qu'ils ont eu à identifier dans le domaine de la lutte contre le paludisme pour permettre aux programmes nationaux que nous sommes en Afrique de pouvoir définir les stratégies à adopter.
Docteur Sen, les progrès pour contrôler le paludisme ont stagné. À votre avis, pourquoi est-ce que la maîtrise de la maladie échappe-t-elle toujours aux médecins, aux chercheurs africains?
Mais effectivement, parce que la lutte contre le paludisme, il faut reconnaître, c'est une lutte qui implique pas seulement le secteur de la santé, qui sont dans le domaine de la recherche. Parce que vous savez que le paludisme est lié directement au climat et aussi au cycle métrique, qui impacte directement sur la résistance du paludisme. Mais également, au-delà de ça, les systèmes de santé en Afrique souvent sont très fragiles. Et les difficultés sont inhérentes donc à plusieurs facteurs. Déjà, sur la maîtrise de l'assainissement et de pouvoir lutter efficacement contre les inondations, ça c'est l'autre élément qui est en dehors du système de santé. Et pour avoir de bons résultats, je pense qu'en dehors du système de santé, avec tous les efforts qui sont en train de faire, il faut impérativement l'implication des autres secteurs, notamment sur le comportement, parce que également le domaine socio-culturel.
Docteur Doudou, à quoi peut-on s'attendre de cette conférence panafricaine pour tout au moins réduire le nombre de décès dus à cette maladie, notamment en Afrique?
Mais c'est de savoir exactement les nouvelles découvertes, notamment dans le domaine de la vaccination contre le paludisme qui est en test actuellement au Ghana et je pense dans d'autres pays. Et si les résultats de ces tests s'avèrent concluants, que ça peut être une très grande avancée pour la lutte contre le paludisme. En plus de ça, vous savez qu'il y a une résistance des vecteurs et la recherche permet de déterminer les nouvelles molécules qui sont efficaces contre les moustiques et tout ce qu'ils ont utilisé pour l'imprégnation des moustiquaires à longue durée d'action. Mais également dans la maîtrise du traitement, parce que vous savez qu'il a été noté un peu en Asie de l'Est une résistance à cette molécule miracle qui est l'artémisinine, qui est la seule la plus efficace combinée à d'autres. Et donc, à la sortie de cette conférence, les chercheurs peut-être pourront donner des nouvelles orientations dans le domaine du traitement et des nouvelles combinaisons qui seront peut-être utilisées en deuxième ligne en cas de résistance des ACT.
C'était Doudou Sen, joint au Sénégal.
Salut les amis, ici Roger Montou de RM Show sur VOA Afrique en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel au programme de la bonne musique. Notre sujet de cette semaine, êtes-vous conscient du danger des réseaux sociaux sur Internet? Exemple, Facebook, WhatsApp, Snapchat et j'en passe. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au 001 703 350 3731 ou 001 703 350 50 37 31 ou contactez-moi sur ma page Facebook Roger Montou, la voix de l'Amérique. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde, Joe Gill à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
N'Djamena sur 93.1 FM, Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.